Chapitre 14e, les amis. En proie au délire de la fièvre, le corps brisé, l'esprit surexcité, Eutrope était étendu dans la petite chambre qu'on lui avait assignée pour demeure. Tantôt un frisson glacial, tantôt une flamme brûlante courait de ses veines à sa poitrine et à son cerveau, comme si son cœur et sa tête voulaient éclater. Tous ses membres tremblaient, agités de convulsions, et sa gorge oppressée, en livrant passage à son haleine, faisait entendre le râle désespérant d'un mourant. Son visage était bleu, ses yeux sortaient de leurs orbites. On craignait une attaque d'apoplexie. Les hommes qui étaient occupés à le soigner voulaient faire venir un médecin pour le saigner, mais il s'y opposa de toutes ses forces. « Pas de médecin » cria-t-il d'une voix étouffée. « Il m'empoisonnerait, il me tirerait tout mon sang, ou bien il me livrerait. » On essaya de le tranquilliser, mais il criait de plus en plus qu'il était entouré d'ennemis et qu'on devait le laisser seul. Aussitôt qu'on le laissait seul, il appelait au secours et priait qu'on le défendît contre les attaques auxquelles, dans son imagination malade, il se croyait en but. Ses gardiens, à bout de ressources, appelèrent à leur aide une diaconesse. Dans la primitive église, le soin des pauvres était une des charges spéciales des diacres. Il y avait pour le même objet des dames diaconesses, veuves pieuses, qui faisaient vœu de renoncement au mariage entre les mains de leur évêque pour mettre une barrière infranchissable entre elles et le monde et qui se dévouaient exclusivement au service de Jésus-Christ dans la personne des membres souffrants de son Église. Elles avaient à s'occuper des malades et des pauvres, des veuves et des orphelins, des catéchumènes de leur sexe et des néophytes, de chacun selon ses besoins. Leur pieuse activité avait donc un vaste champ dans lequel elles pouvaient s'exercer avec une grande charité, une grande prudence, une grande patience. Elles vivaient dans leur maison particulière, qui souvent était des palais, et comme elles recevaient d'ordinaire auprès d'elles des jeunes filles orphelines, des veuves pieuses, des cœurs, en un mot, auxquels l'amour de Dieu paraissait plus doux que les devoirs du monde, elles formaient ainsi autour d'elles de petites communautés dont elles étaient l'âme et qu'elles dirigeaient dans la voie de l'amour de Dieu. Après la mort de son mari, Pentadia avait prié Chrysostome de l'agréer comme diaconesse et de recevoir son vœu. Depuis un an, la noble dame qui avait été si durement éprouvée ne vivait que pour son nouvel état et consacrait à ses devoirs tous ses revenus qui étaient considérables. Aussitôt qu'on avait besoin d'aide, c'était à elle qu'on pensait tout d'abord. Quand Pentadia sut pour qui on la demandait, un léger tremblement courut sur ses lèvres. Elle appela une de ses compagnes et se rendit avec elle à Sainte-Sophie. Dans les premiers temps du christianisme, les églises n'étaient pas des édifices isolés au milieu d'une place, comme on trouve bien de les construire aujourd'hui à peu près partout. Elles avaient toujours une annexe grande et régulière composée d'une cour entourée de constructions supportées par des colonnes, de telle sorte que, sans entrer dans l'église, on pouvait aller chez les prêtres. C'était dans ce même édifice qu'on donnait l'hospitalité aux pèlerins, aux voyageurs. Souvent même, on y érigeait un hôpital, et plus tard, on prit l'habitude d'y placer les écoles. Cet ensemble de constructions et de cours s'appelait Sainte-Sophie, ou les douze apôtres, ou d'un autre vocable quelconque. Alors, on ne considérait pas l'Église comme quelque chose d'isolé. On la croyait inséparable de la vie, des actes et des besoins de l'humanité, et on disposait les édifices religieux en conséquence. De là aussi naquit le droit d'asile. Un lieu de refuge inviolable contre les entreprises de l'injustice et de la violence était alors une nécessité de premier ordre. L'autel du Seigneur offrit cette protection, et comme le réfugié ne pouvait rester toujours littéralement auprès de l'autel, on dut lui réserver une autre place. Pentadia se rendit donc où on l'appelait. Quand elle entra, accompagnée de sa suivante, dans la chambre de Trope, celui-ci se souleva un peu et la regarda fixement. Tout d'un coup, il saisit convulsivement le bras de son gardien. « Maintenant, je suis perdu, » s'écria-t-il. « Elle vient me prendre pour me livrer. »« Vous êtes malade de corps et d'esprit, Eutrope, » dit Pentadia avec douceur. « Autrement, vous ne craindriez pas une diaconesse qui vient vous offrir ses services. »« N'êtes-vous pas la noble Pentadia ?» demanda-t-il d'un ton craintif. « Je suis Pentadia, mais il n'est pas question de mon nom. Il ne s'agit que de vous. » et des moyens propres à vous rétablir. Vous êtes ici en sûreté. Personne ne songe à vous perdre. Abandonnez donc vos folles terreurs qui vous tiennent dans cet état de trouble et d'agitation, et vous aurez fait un grand pas vers la guérison. « Je ne vous crois pas, » dit Eutrope d'une voix sombre, car vous devez me haïr, et vous ne me parlez avec douceur que pour me tromper, pour m'endormir, et pour me livrer aux prétoriens pendant mon sommeil. Je sais ce qu'on doit attendre des hommes. » Pentadia se tut et le regarda avec compassion, car elle pensa que là où il n'y avait aucune foi en Dieu, il ne peut exister non plus aucune foi en la vertu. « Voyez comme je vous ai deviné !» s'écria Eutrope. « Je ne vous réponds pas pour ne pas vous surexciter, » dit-elle tranquillement. La compagne de Pentadia avait préparé une boisson qu'elle présenta à Eutrope. « N'est-ce pas du poison ? » demanda-t-il avec défiance. Pour toute réponse, elle y porta les lèvres. « Oh ! Le poison peut être au fond du verre. Vous avez à peine goûté. »« Malheureux !» s'écria la jeune fille avec vivacité. « Comment pouvez-vous nous prendre pour des empoisonneuses ?»« Ne savez-vous donc pas que j'ai envoyé Timasius en exil, que son fils unique l'y a volontairement suivi, et que tous deux sont morts misérablement, que j'ai en outre persécuté Pentadia, parce que je craignais qu'elle n'allât rejoindre son mari en Afrique avec sa fortune ?»« Oh oui, je sais tout cela. Mais vous, ne savez-vous pas que Pentadia est chrétienne ?»« Chrétiens, nous le sommes tous, mais cela ne change pas l'homme. » dit Eutrope d'un ton indifférent. « Chacun de nous a ses passions, et les suit, catholique, arien ou païen. En suivant mes passions, je suis devenu consul et patricien. En suivant leurs passions, Eudoxia et Gainas m'ont renversé. Pourquoi la soif de vengeance ne pousserait-elle pas Pentadia à m'empoisonner ?» D'un simple signe de la main, Pentadia imposa silence à sa compagne que le cynisme d'Eutrope révoltait. « Vous paraissez un peu plus calme, » dit-elle à Eutrope. Et vous parlez maintenant avec suite. C'est ce que je désirais. Et comme vous avez repris possession de vos sens, vous devez comprendre que vous ferez bien d'en rester maître. Vous n'avez plus besoin de nous en ce moment. Ainsi portez-vous bien. » Elle le salua amicalement et sortit avec sa compagne. « Avez-vous vu, dit Eutrope à son gardien, comme elle a été piquée au vif de ce que je l'ai supposé vindicative ?»« Non, répondit l'homme. Je n'étais surpris que de son calme en présence de vos outrages. Qui aurait jamais supposé qu'on pût craindre de trouver en Pentadia une empoisonneuse ? Si vous étiez dans ma peau, vous comprendriez qu'on ne voit de tous côtés que sujet de crainte et d'angoisse, quand le cerveau est en révolution après une pareille fuite, devant une pareille persécution et en présence du gouffre béant de la mort. Avez-vous aussi pensé au bon Dieu et à votre pauvre âme ? Demanda le gardien. Bravo homme simple et pieux. « Qu'est-ce que cela, ma pauvre âme ?» fit Eutrope. « Mon corps, ma vie, voilà ce que j'avais à sauver. Je n'avais pas le temps de penser à l'âme. Mais le corps, la vie, finissent tôt ou tard avec le tombeau. Alors l'âme reste seule et comparée au tribunal de Dieu. « Folie !» interrompit Eutrope. « Sans la vie du corps, il n'y a point d'âme. » Le diacre Sérapion entra en ce moment et s'informa de l'état du malade. Eutrope murmura sourdement quelques mots inintelligibles. Il haïssait les serviteurs de l'Église, comme le vice hait la vertu. Extérieurement, dit le gardien, il est devenu tranquille. Il a cessé de crier et de hurler. Mais en revanche, son esprit est bien malade. Il vient de dire tout tranquillement que sans la vie du corps, il n'y a point d'âme. Eutrope partit d'un bruyant éclat de rire. Il est peut-être possédé du malin esprit, souffla le gardien à l'oreille du diacre. De l'esprit du mal, à coup sûr. Répondit Sérapion à voix basse. Je me trouve mieux, dit Eutrope tout d'un coup avec un grand calme. Je désire être seul. Sérapion, après lui avoir adressé encore quelques paroles amicales, auxquelles Eutrope répondit froidement et brièvement, partit avec le gardien. Oh Seigneur, dit celui-ci d'un air effrayé, il me semblait que j'avais affaire avec un damné. Il vit, il peut encore se convertir, répondit Sérapion. Peut-être que la crainte de la mort et le silence de la solitude l'amèneront à des pensées sérieuses qui prépareront sa conversion. Cependant, les pensées d'Eutrope suivaient un cours tout différent. La fièvre, les convulsions n'avaient été que l'effet de l'agitation terrible produite sur lui par l'incertitude où il était, si Chrysostome le défendrait et le protégerait contre sa propre loi. En ce moment, il se voyait sauvé pour l'instant, et comme l'animal qui, après avoir été traqué, et parvenu à atteindre sa retraite cachée, inabordable, il respirait et commençait à se reposer. Mais bientôt il fut en proie à une autre inquiétude, celle de la mauvaise conscience. Il ne croyait ni à la justice, ni à la droiture, ni à la compassion, ni à la noblesse de sentiment, parce que tout cela lui manquait. Il flairait partout la tromperie, la ruse, parce que c'était son élément. À ses yeux, la trahison, le mensonge, étaient au fond de tout commerce humain, et l'on n'y cherchait qu'un profit personnel. Il jugeait tout le monde sur sa propre mesure. En outre, la mauvaise conscience porte en elle une certaine inquiétude particulière, une crainte instinctive. Dans les choses indifférentes, dans un mot, dans un regard, dans une rencontre, dans un incident fortuit, et jusque dans un bruit subi, elle voit la trahison, elle tremble. Elle devient, sans raison extérieure, tout hors d'elle-même. C'est en elle que réside la cause. Eutrope en était là. Il se voyait bien dans l'asile de l'Église, mais il ne lui paraissait pas assez sûr, et il aurait voulu être bien loin, isolé dans quelque île déserte ou perdu dans la cohue d'une grande ville, pour y vivre inconnu en liberté. « Ici, je suis comme en prison, » se dit-il en lui-même, « et le sort le plus favorable qui puisse m'échoir, c'est le bannissement. Et où, et dans quelles conditions ? L'exil ne sera peut-être qu'un prétexte pour me torturer à mort. Si je m'échappais d'ici secrètement, personne ne peut croire qu'un persécuté aille quitter librement l'asile. Par conséquent, personne au monde ne songe à ma fuite. C'est une raison pour que j'ose l'entreprendre. Le silence, la solitude, je ne puis les supporter. Je ne puis supporter non plus les gens que je suis condamné à voir ici, avec leur air solennel et leurs paroles superstitieuses. Et cette chambre est-elle assez pauvre? Ce mobilier est-il assez misérable? Et tous mes trésors seraient perdus, et je passerai le reste de mes jours dans le dénuement. Non, quittons ce lieu. Le droit d'asile couvre ma fuite en la rendant tout à fait invraisemblable. Mais où aller? D'abord chez Osius, il a une barque. Je passerai le Bosphore la nuit, et j'aborderai en Chalcédoine. Je puis compter sur Osius, nous sommes deux têtes sous le même bonnet, mais sur lui seul. Quittons ce lieu. Le rat est mieux en plein champ que dans le piège. Et puis, cet habit sombre qu'on m'a donné ici semble fait pour la circonstance. C'est parfait. On me prendra pour un moine, pour un saint. Le masque est bon. Comme ce silence est torturant. Il couvre la trahison. On veut m'endormir. Non seulement au figuré, mais peut-être même en réalité, à l'aide d'un narcotique. Il me fera disparaître, d'une façon ou d'une autre. Quel motif pour bien avoir ce patriarche, pour me défendre contre l'empereur et contre le peuple? Aucun autre que celui-ci. Il veut se faire aimer du peuple en maintenant le droit d'asile, et il veut imposer à l'empereur en lui faisant sentir sa force spirituelle. Ensuite, il le gagnera en lui faisant le plaisir de me livrer, afin qu'Arcadius ait la paix avec ses bourreaux, Eudoxia et Gainas. Voilà le plan du patriarche. Oh, je le perce à jour! Je connais les hommes et la valeur de leur générosité. Mais si Osius me trahissait? Non, il ne le fera pas. Il n'est pas généreux, lui. C'est son moindre défaut. Mais il me doit tout. Il m'est fidèle comme l'or. Ne l'ai-je pas couvert d'or, en effet? Sur cette réflexion, il rit en lui-même et il prit le parti d'attendre tranquillement la nuit. Il endossa la capote noire qu'on lui avait donnée pour remplacer ses sales habits de déguisement. Il mangea et but ce qu'on lui apporta, à la grande joie de son brave gardien. Il remercia ce dernier de ses soins, et ajouta qu'il espérait bien dormir parce que la nuit précédente, il n'avait pu, tant la crainte le tourmentait, trouver un instant de sommeil. Mais aujourd'hui, il était tranquille, et là-dessus, il le renvoya. Cependant, Eutrope n'avait pas la tranquillité qu'il feignait. Au contraire, plus les heures du jour s'écoulaient et le rapprochaient de la nuit, plus son imagination inquiète travaillait sur les chances qu'il avait à courir, soit en fuyant, soit en restant. Pentadia avait bien passé quelques mois tranquillement dans l'asile en attendant la décision de son sort. Pourquoi n'en ferait-il pas autant? Mais quelle différence! Pentadia était soutenu auprès de l'empereur par des amis et des parents puissants. Lui, au contraire, n'avait auprès de l'empereur que de puissants ennemis. Et puis les femmes ont plus de patience et de résignation. Elles plient plus aisément aux circonstances. Elles ont moins besoin d'activité et de mouvement. Mais moi, je meurs dans l'inaction. Il faut que j'agisse. Je brave les dangers qui me menacent au dehors. Au milieu de ces pensées, les heures se passèrent. Le soir vint. À demi poussé au dehors, à demi retenu en arrière, sans confiance en Dieu, sans aucune vue élevée, sans bonne résolution, sans un sentiment qui mit sa volonté au-dessus du simple instinct du renard fuyant devant la meute, Eutrope mit fin tout à coup à ses hésitations. Il sortit de sa chambre, passa la cour intérieure, et arriva sous les arcades qui entouraient les constructions antérieures. La place était solitaire. Çà et là, une ou deux personnes, sortant de Sainte-Sophie, traversaient en silence la cour et se dirigeaient vers la sortie principale. Eutrope eût mieux aimé voir beaucoup de monde. La foule et l'obscurité eussent été pour lui une double garantie. Pour le moment, il ne pouvait se confier qu'aux ténèbres. Sans traverser la cour, il longea le portique et arriva à la porte. En mettant le pied sur la grande place, il fut pris d'un vertige, mais il maîtrisa son émotion. Il reconnut le palais du patriarche, le palais du Sénat. Calculant à dessein son pas, il se dirigea sans précipitation vers la demeure de son ami. Il savait qu'il trouverait la porte encore ouverte, parce qu'Osius aimait les réunions joyeuses et les festins nocturnes. Seulement, le portier lui demanderait peut-être ce qu'il voulait, s'il ne le reconnaissait pas. Et en ce cas, Eutrope ne voulait pas penser plus loin. « Je dois maintenant m'en rapporter la fortune », murmura-t-il en lui-même. Il arriva sans encombre à la maison d'Osius et frappa à la porte. Le portier ouvrit et demanda qui venait si tard. Mais Eutrope, sans répondre, passa devant lui en se glissant comme un serpent. Cependant, le portier leva son flambeau et regarda le visiteur qui paraissait si habitué à la maison qu'il ne demanda à personne de quel côté il devait tourner pour trouver le maître du logis. Il régnait dans l'hôtel un silence, une solitude extraordinaire. Osius n'avait aucune société auprès de lui, circonstance favorable. Aussi les domestiques étaient allés se coucher. Eutrope parvint sans autre obstacle que l'obscurité, jusqu'à la chambre de son ami, il entra. Osius, entouré de coffres, de malles, était en train d'y entasser des objets de valeur. Un effroi terrible s'empara de lui quand il se trouva en présence d'Eutrope. « Que venez-vous faire ici ? » lui dit-il d'une voix étreinte. « Je ne puis vous protéger. Partez. »« Très bien. Je veux aussi m'en aller. »« Mais vous devez m'aider à partir. » répondit Eutrope d'un ton suppliant. « Je ne le puis. Moi-même, je veux fuir, pour ne pas être dépouillé, parce que je passe pour un de vos amis. »« En cela, on vous juge mal. » dit Eutrope ironiquement. « Sortez d'ici, » fit Osius, « je suis occupé. J'ai renvoyé tous mes domestiques pour éviter d'être espionné par eux. Je m'embarque cette nuit même, et je ne puis m'occuper d'autre chose que de moi-même et de mes affaires. « Oh, prenez-moi avec vous, » fit Eutrope d'une voix suppliante. « Prenez-moi pour votre domestique et sauvez-moi. Tous ces trésors, c'est à moi que vous les devez. Je ne vous demande que la vie. Impossible, on vous reconnaîtrait, nous serions perdus tous deux. » « Partez, sauvez-vous dans l'asile de l'église, là vous êtes en sûreté. »« Je n'ai pas pu y tenir, » répondit Eutrope d'un air désespéré. « La trahison m'y enveloppe, la mort m'y menace sourdement. »« Prenez-moi avec vous, laissez-moi passer pour votre domestique, ou bien être votre domestique. Mais soyez compatissant et prenez-moi avec vous. »« C'est impossible, vous dis-je, le batelier ne vous recevra pas. »« Il le doit, si vous me donnez comme votre domestique. » « Mais malheureux, comprenez donc que c'est impossible. Vous ne pouvez payer le voyage jusqu'à Thessalonique, encore moins jusqu'à Hispalis, c'est un vaisseau espagnol, je vais dans mon pays. Ayez pitié de moi et payez mon passage. » fit Eutrope en pleurant et en élevant les mains vers Osius. « Voyez, en Espagne, où on ne me connaît pas, à Hispalis, la grande ville, je serai caché, et je consens volontiers à être votre esclave toute ma vie. Si vous aviez 20 ans, c'est une proposition qui pourrait s'examiner aujourd'hui. » « Elle est ridicule. Eh bien, soyez généreux une fois dans votre vie et emmenez-moi. » Eutrope s'était jeté aux pieds d'Osius et embrassait ses genoux. « Allez-vous-en. Retournez dans votre asile. » fit Osius avec fureur. « Vous me volez un temps précieux. Il faut que je fasse mes malles. » « Que signifient ces pas ? » s'écria Eutrope en se levant brusquement et en prêtant l'oreille. « Ce sont les gens qui viennent prendre ces malles pour les porter à bord. » répondit Osius. « Vous le voyez, le temps presse. Partez donc. » En ce moment, le portier entra. « Maître, » dit-il à Osius en montrant Eutrope, « cet homme est cause de votre fuite et de votre trouble. Je l'ai reconnu et j'ai appelé la garde. Voici le centurion. » Eutrope s'affaissa en poussant un cri rauque. Le centurion entra, suivi à distance de ses soldats. « Emmenez-le, » leur dit-il avec autorité. « en désignant Eutrope. Puis il se tourna du côté d'Osius. « Et vous, vous allez le suivre, » lui dit-il. « Toutes les créatures de ce misérable qui se sont enrichies indignement seront dépouillées et bannies. Vous étiez un de ses plus mauvais complices. Vous aurez le châtiment que vous méritez. » Pâle, tremblant de tous ses membres, Osius essaya de parler. Ses lèvres ne purent prononcer un seul mot. Le centurion fit un geste. Deux prétoriens s'avancèrent et mirent Osius entre eux deux. Ensuite, les autres soldats entrèrent dans la chambre, remplirent les coffres des objets précieux qui y étaient disposés à être emballés, fouillèrent toute la maison pour y trouver quelque chose encore, et partirent enfin avec leurs prisonniers et leurs butins. Le portier fut d'abord effrayé du résultat de sa démarche, mais au bout d'un instant de réflexion, il se ravisa. « Je partirai donc seul pour Hispalis, » se dit-il, « et au moins les objets qui sont déjà à bord seront sauvés, pour moi. Ils resteront en bonne main. »